l'être suprême. Tu es le Dieu d'en haut, le Dieu des cieux. Et non pas le Dieu de la terre, plutôt le Dieu de l'univers. Oui, quand on s'adresse au Père, il est un Père céleste. Il est au-dessus de tout et il règne. Il domine sur le règne des hommes. Il est tout puissant. C'est lui qui dit à moi et la chose arrive. Tu appelles du néant les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et ces choses arrivent à l'existence. Nul n'est comme toi, Seigneur, le grand Dieu, le grand roi. Et ce matin, nous sommes devant toi, Seigneur. Devant ce grand Dieu qui a certainement quelque chose à dire à nos cœurs. Humblement, nous venons à toi, Seigneur, pour t'écouter. Parle, Seigneur, ton peuple écoute. Fais-nous du bien à travers ta parole, Seigneur. Dans la vie, édifie, bénis ton peuple, Seigneur. Et bénis ce simple canal par lequel tu veux atteindre ton peuple. Sanctifie ta parole dans mes lèvres. Bénis-la, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est formidable. Chaque dimanche, il nous rassemble dans sa maison et il nous parle. Il nous bénit. Il nous fait du bien. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Nous lisons à partir du verset 32. Luc 23, 32. Nous lisons. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu des dieux. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait, disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il était déjà environ la sixième heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Les centeniers, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Amen. Ce matin, je vous propose comme thème la croix de Jésus, l'abri sûr. La croix de Jésus, l'abri sûr. Vous savez, quand on s'approche de la croix de Jésus, on a la sécurité éternelle. On n'a pas seulement la sécurité sur la terre, on l'a bien sûr, mais cette sécurité va jusque dans l'éternité. Mais généralement, quand on parle de Golgotha, on ne voit que la croix de Jésus. Ce matin, j'aimerais nous dire que sur la croix, plutôt sur le mont Golgotha, il n'y avait pas qu'une seule croix, il y en avait trois. Il y avait la croix de Jésus, mais il y avait aussi la croix des deux autres brigands. Ces deux brigands furent crucifiés en même temps que Jésus au mont Golgotha. L'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et chacune de ces croix, toutes ces trois croix, ont du sens. Chaque croix a un message. Chaque croix dégage un message. Et un message important. Donc ce matin, nous allons voir le message que dégagent ces trois croix. Et pour comprendre que la croix de Jésus est le seul abri sûr. Nous commençons avec la croix de Jésus. La croix de Jésus dégage la grâce et non la condamnation. Cette croix ne dégage que la grâce. Et la grâce qu'elle dégage, elle n'est pas sélective. C'est une grâce universelle. Devant la croix de Jésus, tous nous sommes égaux. Nous sommes égaux tous devant cette croix. Il n'y a pas de favoris. C'est la même grâce pour toutes les races. Que vous soyez blanc ou noir, rouge ou jaune, c'est toujours la même grâce. C'est la même grâce pour les Européens, comme pour les Asiatiques. C'est la même grâce pour les Américains, comme pour les Africains. C'est toujours la même grâce. Les Américains n'ont pas une grâce exceptionnelle que celle des Congolais. C'est vrai quand nous voyons le christianisme américain, quand nous voyons le christianisme occidental, c'est comme si ces gens-là ont un Dieu, un autre Dieu, qui est différent des nôtres. Et pourtant, tous, c'est toujours sur la croix de Golgotha où nous tirons cette grâce. Cette grâce ne s'impose pas, elle ne s'exige pas, mais elle est toujours disponible. Elle ne s'impose pas. Dieu ne veut pas s'imposer pour sauver. Mais son salut est disponible. La grâce est toujours là, disponible. Disponible pour qui? Pour les hommes de Dieu. Disponible pour ceux qui craignent Dieu. Disponible pour des gens irréprochables. Pour des gens qui mènent la meilleure vie. Non, cette grâce est disponible pour tout le monde. Elle est disponible même pour les brigands, même pour des gens qui ont commis des grands forfaits. La grâce-là est toujours disponible. Sur cette croix-là, se dégage toujours cette grâce. Ce matin, je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez. Et qu'est-ce que vous avez exactement fait dans votre vie? Mais pour être venu ce matin ici à la maison de Dieu, je peux vous rassurer qu'il y a la grâce de Dieu. Ne vous approchez pas seulement d'une église, temple, mais approchez-vous de la croix. Approchez-vous de Jésus. Et quand vous vous approchez de lui, il ne regarde pas ce que vous avez commis. Il met à votre disposition sa grâce. Il met à votre disposition cette faveur. Parce que vous vous êtes approché de lui. Cette grâce n'est pas un droit. Elle se reçoit humblement avec reconnaissance. Humblement, on doit recevoir cette grâce. Elle s'offre à quiconque croit en Jésus-Christ. Si tu crois, cette grâce t'est offerte. Jésus dit, la parole de Dieu dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils. Où l'a-t-il donné? Dieu a livré son Fils. Il a livré à la mort. C'est sur la croix qu'il a livré son Fils pour que celui-ci connaisse la mort. La mort par crucifixion. La mort de malédiction. Pour dégager la grâce. Sur la croix. Quiconque croit a cette grâce. On ne dit pas que les Américains, que les Européens, quiconque croit. On ne dit pas des gens de bonne vie. On ne précise pas. Cette grâce, c'est pour quiconque croit. Qui qu'il soit, que vous vous considériez comme le pire des hommes, vous avez de la place à la croix. Vous avez de la place. Je disais que la croix ne condamne pas. Ainsi, bien-aimé, dans le Seigneur, la croix ne condamne pas. La croix ne juge pas. La croix ne châtie pas. La croix de Jésus ne connaît qu'une seule chose. Une seule chose, sauver l'homme. La croix de Jésus ne connaît qu'une seule chose. La croix de Jésus, ce n'est pas le lieu de la condamnation. Ce n'est pas le lieu de la punition. C'est le lieu du salut. C'est le lieu du pardon. C'est le lieu de la grâce. Sauver l'homme, en fait, je disais que c'est pour sauver l'homme de l'enfer, sauver l'homme de la puissance de Satan, sauver l'homme du péché, sauver l'homme de la maladie, sauver l'homme de toute forme d'infirmité, et non les condamner. La croix de Jésus, c'est le lieu de la condamnation d'une seule personne. Alléluia. Une seule personne a été condamnée sur la croix. C'est Jésus. Jésus a été condamné sur la croix pour que nous, nous soyons sauvés. Il était condamné à mort pour que nous, nous soyons sauvés. Il a été condamné non pas parce que lui a commis le mal, non. Il a porté dans son corps notre condamnation. Il a porté dans son corps nos péchés. Et lui a été condamné. Je disais que la croix ne condamne personne. Mais quand vous lisez le verset 36 de Jean 3, vous verrez que les gens se condamnent eux-mêmes. Quand la croix ne condamne pas, les gens eux-mêmes se condamnent. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus ne dit rien. Jésus ne te condamne pas. Oui, il a mis à ta disposition sa grâce, son salut. À toi de venir prendre parce qu'il te l'a déjà offerte. Mais si tu ne prends pas, toi-même, tu te condamnes. Je disais, peu importe ta condition ce matin, si tu t'approches de la croix de Jésus, tu obtiendras la même grâce, car rien n'est trop tard. Alléluia, rien n'est trop tard. Que tu sois venu ici à la bannière pour la première fois, que tu aies entendu ces choses pour la première fois, que tu te considères comme les pires des pécheurs, la bonne nouvelle pour toi ce matin, et que tu n'es pas venu trop tard. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 1, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. T'es pas venu trop tard. Il y a encore de la place pour vous. Il y a encore de la place pour toi. La grâce est toujours là en train de t'attendre. La parole qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cette parole est encore d'actualité ce matin. Si tu peux t'approcher de lui ce matin, tu auras le repos. Tu peux t'approcher de lui ce matin, tu auras le pardon de tes péchés. Tu peux t'approcher de lui ce matin, tu auras la paix. Tu auras la restauration. Tu auras la vie éternelle. Amen. Et comment recevoir cette grâce? Il y a deux manières de la recevoir. De deux manières, soit nous la recevons, soit nous la foulons aux pieds. Et les deux manières sont les deux croix. Dans l'une à la gauche de Jésus et l'autre à sa droite. Parlons de l'une de ces croix d'abord. Vous savez que sur ces deux croix, il y avait deux brigands. Parlons du premier brigand qui a pris la parole en premier. Alors que la grâce était disponible pour lui, Lui-même l'a foulé aux pieds sans s'en rendre compte. Il dit à Jésus, « N'es-tu pas le Messie ?» N'es-tu pas le Messie ? C'était une manière d'insulter Jésus. Elle fait croire qu'il connaît que Jésus est le Messie, mais cette connaissance révèle en réalité son incrédulité. N'es-tu pas le Messie ? Bien-aimé, la grâce ne s'arrache pas. Parce qu'il veut être sauvé, il est sur la croix. Il est condamné en même temps le Christ. Et il s'adresse à lui, n'es-tu pas le Messie ? Il veut arracher la grâce. Celle-ci ne s'exige pas, elle ne s'arrache pas. Oui, elle est disponible pour ceux qui la reçoivent humblement. Ce qui prouve son incrédulité, c'est lorsqu'il dit encore, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Il ignore que Jésus n'est pas venu pour se sauver lui-même, mais pour sauver plusieurs. Alléluia. Pour sauver plusieurs à travers sa mort sur la croix. Jésus n'est pas venu pour se sauver. Il est venu pour se donner, pour se livrer à la croix. Pour sauver, en commençant par ces brigands, et toucher toute l'humanité. Dans Matthieu 20, verset 28, elle dit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Il est venu donner sa vie pour payer notre dette à nous. Nous qui méritions la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu comme un don, s'est donné au Père pour satisfaire à l'exigence du Père, mourir sur la croix pour sauver l'homme. Et cet homme, ce brigand, démontre encore son incrédulité ou même son orgueil en disant, sauve-nous avec toi. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés avec Jésus. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés avec lui. Car lui n'a pas besoin d'être sauvé. Lui, il est le sauveur. Il est le sauveur. Il n'a pas besoin d'être sauvé. Quand il monte sur la croix, ce n'est pas pour se sauver. Quand il monte sur la croix, c'est pour nous sauver, nous. Comment vas-tu lui dire, n'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi. C'est de l'orgueil. C'est une forme d'insulte à Jésus. Enfin, sauve-nous. Sauve-nous. Il ignore encore qu'en matière du salut, le salut est individuel. Quand il peut dire « Sauve-nous », il voyait l'autre brigand. « Écoutez, nous mourons avec toi. Nous sommes avec toi sur la croix. Jésus, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Non, le salut n'est pas collectif. Collectif, excusez-moi. Le salut est individuel. Il n'y a pas de « nous ». En matière du salut, il n'y a que de moi. Il n'y a pas de nous. On ne vient pas pour les gens. On vient pour soi-même. On vient à Dieu pour soi-même. On vient à l'église pour soi-même. On ne vient pas pour les autres. L'autre a dit, l'autre ne m'a pas visité. J'ai connu tel problème. J'ai eu un deuil. Je ne peux pas venir me voir. Je ne partirai plus à leur église. L'église de qui? Tu viens pour qui? Tu viens pour ton propre salut. Nous venons chacun pour son propre salut. Que l'on ne me visite pas, que l'on ne m'aime pas, moi je viens pour Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de solidarité. Vous savez, ces brigands-là voulaient être solidaires. C'est comme les fumeurs sont solidaires. Un fumeur, même si tu ne le connais pas, tu le rencontres, il est en train de fumer et tu lui demandes, il n'hésite pas, il te donne. Mais ce n'est pas comme ça le salut. Le salut, c'est individuel. C'est ta foi qui te sauve et non la foi de l'autre. Ce n'est pas la foi de tes parents qui te sauve. Ce n'est pas la foi de ta femme qui te sauve. Ce n'est pas la foi de ton mari qui te sauve. Ta propre foi. Toi-même devant Jésus, devant cette croix. Comment tu réagis devant cette croix? Ne dis-tu pas toi aussi? N'es-tu pas le Messie? C'est comme Judas Iscariote qui, en trahissant Jésus, en livrant Jésus, croyait que Jésus allait faire un numéro pour se sauver. Et surtout quand on est venu poser à Jésus la question, plutôt quand je lui ai posé la question, qui cherchait, vous dit Jésus de Nazareth? Il dit, c'est moi, tous tombent. Judas dit, waouh, c'est comme ça. Il va se tirer d'affaire. Mais quand il a vu que Jésus était condamné, il est allé se pendre. Et pourtant, il a eu des remords. Il n'a pas poussé très loin pour croire en Jésus, pour le recevoir dans son cœur. Amen, amen. Amen. Ces brigands ne comprennent pas pourquoi Jésus se laisse faire. C'est comme je me disais de Judas Iscariote. Il ne comprend pas pourquoi Jésus se laisse faire. Et pourtant, il est le Messie. Il est le Messie. Il peut faire quelque chose. Même pour lui-même, il peut faire quelque chose. Il ne comprend pas, il n'en revient pas. Mais n'es-tu pas le Christ? N'es-tu pas le Messie? Mais le Messie est là. Il se laisse être flagellé. Il se laisse être ridiculisé. Tout le monde se moque de lui. Mais il est là supportant tout ça. Et il n'en revenait pas. Et humainement parlant, apparemment il peut avoir raison. Il connaît qu'il est le Messie. Vous comprenez, même les brigands, même les gens là de mauvaise vie connaissent Jésus. Connaissent Dieu. Mais cette connaissance n'est pas celle-là qui sauve. Parce que plus d'une fois, j'ai suivi dans les théâtres où vous voyez quelqu'un qui joue le rôle du pasteur. Et il prêche très bien la parole. Et pourtant, lui-même n'est pas sauvé. Il connaît. La connaissance enfle. Mais la charité édifie, nous dit la Bible. Celui qui croit connaître quelque chose, il ne connaît pas comme il faut connaître. Il y a une manière de connaître. Et cette manière-là qui sauve, et cette manière-là qui crée la foi en nous et qui donne le salut. Amen. Troisième croix, le deuxième brigand. Et ce brigand est exceptionnel. Ce brigand va passer par 5 étapes pour jouir de la grâce que la croix de Jésus dégageait. Ces brigands savaient que la croix de Jésus était la blessure. Jésus est là. Là, je ne loupe pas l'occasion. C'est mon jour. Je vais m'abriter et j'aurai le salut certainement. La première des choses que ces brigands vont faire, ils vont reconnaître Jésus comme Dieu. Et s'en prend à son ami, lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu ?» Waouh ! Qui t'a dit que Jésus était Dieu ? Tu n'es qu'un simple brigand, tu n'es qu'un voleur. Tu es quelqu'un de mauvaise vie. Depuis quand Jésus est Dieu ? Qui te l'a dit ? Dans la confusion totale, quand tout le monde se moque de Jésus et l'insulte, quand les Juifs perdent l'espoir, il croyait que le Messie viendrait pour le délivrer du joug romain. Mais quand il voyait ce Messie incapable de faire quoi que ce soit, il ne les a pas délivrés. Ils ont perdu toute confiance en Jésus. Ils ont perdu espoir. Certainement, c'est un faux. Il faut en attendre un autre. Le Messie viendra. Celui-ci, c'est un faux. Quand tout le monde avait perdu confiance en Jésus, ces brigands voyaient autrement. Ils voient avec les yeux de la foi et non pas avec les yeux physiques. Il ne voit pas Jésus comme simplement Messie, parce que dans l'entendement des Juifs, le Messie viendrait pour eux. Mais lui voit Dieu qui vient, non pas pour seulement Israël, mais pour toute l'humanité. Il voit Dieu qui vient, non pas pour des gens seulement des bonnes pères, des bonnes vies, mais aussi pour des brigands comme lui. Il voit en Jésus Dieu. Il croit en lui. Il dit, ne crains-tu pas Dieu? Il défie tout le monde. Il défie les Juifs. Il défie les prêtres. Il défie les pharisiens. Il défie tous ces docteurs de la loi. Si vous ne croyez pas en Jésus comme Dieu, moi je crois en lui. Il est mon Dieu. Je crois en lui. La grâce se dégage quand tu commences déjà à croire en Jésus. Alléluia. C'est à ce moment-là que la grâce commence à s'approcher de toi. Parce qu'en fait, elle est déjà là. C'est toi plutôt que tu t'approches de cette grâce. Vous savez, Thomas aussi n'avait pas cru. Hein? Thomas n'avait pas cru. Il a dit, non, je dois voir. Je dois voir ses mains. Là, on l'a crucifié. Je dois voir, là, on a percé sa côte. Mais quand Jésus s'est présenté devant lui, puis Thomas a vu, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il a crié en Jésus. Il a dit que Jésus était Dieu. Et c'est comme ce brigand a aussi cru à Jésus comme étant Dieu. Qui est Jésus pour toi? Il y en a qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Il y a une autre religion. Tu crois que Jésus, c'est un grand prophète. Mais dans la contradiction de cette religion, il dit, au dernier jour, Dieu permettra que le monde soit jugé par Jésus. Alléluia. Il n'est pas Dieu, mais au dernier jour, le monde sera jugé par lui. C'est simple, c'est de croire qu'il est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Deuxième étape, cet homme reconnaît sa culpabilité et admet ça. Et il admet qu'il mérite cette condamnation. Il dit à son ami, « Mais crains-tu pas Dieu? Tu connais la même peine que toi? » Nous, c'est justice. Nous méritons cette punition, cette condamnation, parce que nous sommes méchants. Il reconnaît sa culpabilité. Il reconnaît sa faute. La Bible dit, « Si tu caches ses transgressions, c'est lui qui cache ses transgressions, ne prospère point. » Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Est-ce qu'il y a une lutte au-dedans de toi? Une lutte. Tu ne veux pas avouer. Tu ne veux pas reconnaître ta culpabilité devant Dieu. Ce brigand a reconnu. Pour moi, c'est justice. Je mérite ça. Que je meure par crucifixion, c'est normal. C'est la mort prévue, la condamnation prévue pour des méchants. C'est la mort des malédictions. C'est normal pour nous. Il a reconnu. Mais si nous ne reconnaissons pas nos torts, nos fautes, nous n'allons pas chercher le secours. Nous devons commencer par reconnaître ce que nous avons commis comme mal. Pour que nous obtenions grâce, pour que nous obtenions miséricorde, faveur. Même si vous faites du mal à quelqu'un et vous ne reconnaissez pas, et vous venez lui dire, si j'ai mal fait, pardonne-moi. Si tu as mal fait. Non, reconnais que tu as mal fait. Reconnais ta faute. Dis, j'étais offensé. Je suis désolé, pardonne-moi. Je reconnais. Mais tu ne veux pas reconnaître. Tu dis, si j'ai mal fait. Non, tu as mal fait. Cet homme dit, nous méritons cela. Nous méritons. Et troisième étape, il dit, il reconnaît l'innocence de Jésus. Il dit, celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus est innocent. Mieux que Pilate, il déclare que Jésus n'a rien fait de mal. Pilate savait que Jésus était innocent. Je me suis toujours posé la question, Pilate, tu as reconnu l'innocence de Jésus. Pourquoi tu ne l'as pas libéré? Tu as dit que tu ne trouves rien de mal en lui, mais tu ne le libères pas. Non seulement tu ne le libères pas, tu dis d'accord, je vais vous le donner, mais comment? Tu ordonnes qu'il soit fouetté. Il est innocent, mais que tu ordonnes aux policiers et aux militaires de le frapper. Alors qu'il est innocent. Oui, ces brigands ont reconnu l'innocence de Jésus. Laissez-moi vous dire que Jésus était innocent. Il n'avait rien fait de mal. Il ne méritait pas la mort. Surtout pas cette mort. Parce qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Il n'était pas maudit pour aller sur le bois. Pour aller sur la croix. Il ne la méritait pas cette mort. Ce n'était pas sa mort. Il était un innocent qui n'avait rien commis de mal. Mais l'innocent est monté sur la croix. Parce qu'il n'y avait personne pour me sauver. Il n'y avait personne pour te sauver. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il y ait quelqu'un d'innocent pour porter le péché de l'humanité. Quelqu'un qui n'avait jamais connu le péché. C'est pourquoi Jésus s'est présenté. Innocent qu'il était. Il a porté le péché de l'humanité. Il a porté le péché de tout le monde. Il est monté sur la croix. Oui, il était innocent. Même sur la croix, il était innocent. Il n'était pas pécheur, mais il était devenu péché pour toi et moi. Alléluia. Cet homme, je crois sur le quatrième, il a cru au salut. Il comprend que Jésus a porté dans son corps le péché de l'humanité. Ésaïe 53 nous dit, il s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Il a tout porté dans son corps. Et sur la croix, c'est quand il a tout accompli, quand il a tout achevé, quand le salut de l'homme était totalement accompli, c'est alors qu'il a dit, il a rendu l'âme en criant, tout est accompli. Mais c'était bien avant ces brigands pour achever ces étapes, pour accéder au salut, à la grâce de Dieu. Il va l'implorer maintenant. Il va dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras pour régner. Souviens-toi de moi. Jésus dit, quand je viendrai pour régner? Non, ce n'est pas quand je viendrai. Aujourd'hui même, maintenant même, toi et moi, nous allons nous rencontrer au paradis. Ton problème, ce n'est pas pour demain. C'est pour maintenant. C'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus, si tu donnes ta vie à lui, aujourd'hui même, tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu crois en lui, quelque chose peut se passer dans ta vie. Que tu sois malade, que tu aies un problème, quel que soit le problème, aujourd'hui et maintenant, quelque chose peut se passer dans ta vie. C'est comme la grande sœur de Lazare. Jésus est venu, Lazare était déjà mort. Il lui dit que Lazare ressusciterait des morts. Il dit non, 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 je le sais. Il ressuscitera au dernier jour. Lors de la résurrection des morts, il dit non, pas au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Lazare va sortir du tombeau. Où l'avez-vous mis? On lui a montré là où on l'avait mis. Et il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti du tombeau. Alléluia. Cet homme est capable. Jésus est capable de résoudre ton problème. Même si ce problème est en train de pourrir, il est capable de te donner la vie et la vraie vie, la vie éternelle.
À l'instant même, à cet instant, la croix de Jésus est devenue pour ces brigands un abri sûr. À cet instant, il s'est abrité en Jésus-Christ. Et il a eu sa vie sauve. Il a eu la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez que c'est un brigand? C'est quelqu'un de mauvaise vie. Il ne le mérite pas. Mais il a su recevoir cette grâce qui lui a été offerte. Amen. Pour terminer, bien-aimé, la croix de Jésus est notre abri le plus sûr. Nous devons nous approcher avec humilité et foi de cette croix, car la grâce de Dieu y est toujours disponible. Toujours disponible. Cette grâce, comme nous l'avons dit, elle n'est pas sélective. Elle ne choisit pas. Puisqu'elle ne choisit pas, ne vous soustrait pas non plus. La grâce là ne choisit pas. Elle est universelle. Elle est offerte à ceux qui croient en Jésus-Christ. À ceux qui reconnaissent leur culpabilité. Qui reconnaissent l'innocence de Jésus. Qui acceptent que Jésus-Christ a pris leur place. Elle est pour ceux qui ne se justifient pas, mais qui se jettent humblement au pied du Seigneur. Donc, se justifier, pas se justifier, mais se jeter humblement au pied du Maître. Et ce matin encore, la même grâce est disponible. Dieu attend quelqu'un qui vienne se jeter à ses pieds. Pour que cette grâce-là ait ses effets dans sa vie. Baissons la tête, nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur.
Seigneur, quel merveilleux message. Ta grâce est là, Seigneur. Ta grâce renferme tout. Et merci pour la croix. Non une croix de condamnation, mais de grâce. Seigneur, j'aime ta croix. Ta croix est ma justification. Ce n'est pas la croix de la calomnie, mais la croix de la grâce. Alléluia. Frères et sœurs, cette grâce est disponible comme nous l'avons entendu. Elle est là à ta portée, à la portée de tous. Dieu t'a-t-il parlé ce matin? Es-tu touché par ces messages? Et voudrais-tu que nous puissions prier pour toi? Si oui, tu peux lever ta main là où tu es. Nous allons prier pour toi. Nous allons te recommander à la grâce de ce Dieu-là. Tu peux lever ta main. Merci. Merci pour ceux-là qui lèvent leur main. La grâce. La grâce. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Il est venu mourir pour toi, pour moi, pour nous tous. Pour que nous ayons la vie, le salut, la vie éternelle. Merci. Merci à ceux qui ont levé leurs mains. Est-ce que je peux vous voir? Vous pouvez vous lever. Là, vous êtes. Merci. Merci. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Point n'est besoin d'ouvrir les yeux et regarder. Au contraire, il faut regarder dans son cœur. Alléluia. Frère Ernest. Merci. Alléluia.
Précieux Père Céleste, quel privilège pour nous ce matin d'écouter cette bonne parole. C'est un privilège pour nous, Seigneur, parce que tu n'envoies jamais ta parole en vain. Et ce matin, tu pointes la croix de Christ. Un abri sûr. Et le peuple est là ce matin, Seigneur, pour s'y réfugier humblement. Parce que loin de ta croix, c'est la mort éternelle, la perdition assurée. Alors Seigneur, ce matin nous venons à toi humblement pour que tu nous prennes en charge, afin que nous ne puissions pas louper ta croix. Du reste, tu nous dis que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Alors nous voulons la bonne croix, celle du brigand. Ce matin, le brigand nous parle, Seigneur. Parce que tout commence par s'abandonner à toi et te reconnaître comme l'unique sauveur. Alors ce matin, Seigneur, nous sommes là. Tu nous vois, toi, l'omniprésent. L'omnipotent, l'omniscient. Alors Seigneur, nous n'avons que toi. En ce jour où nous commémorons ton entrée triomphale, mais alors Seigneur, rentre dans nos cœurs. Rentre dans nos cœurs pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Laisse que nos yeux s'ouvrent ce matin et que nous voyons comme a vu les brigands. Nous nous humilions, Seigneur, devant toi. Nous nous humilions, Seigneur, parce que nous n'avons toujours pas bien vu. Alors enduis ton collyre sur nos yeux pour que nous te voyions comme nous devrions te connaître, le sauveur de nos âmes, l'abri sûr. À qui d'autre irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci. Bénis ton peuple qui a écouté cette parole avec un cœur sincère. Et Seigneur, au sortir de ces lieux, nous voulons vivre et marcher comme les brigands. Oui, parce que ta grâce est disponible pour quiconque croit et Amen. Quiconque s'abandonne. Amen. Bénis ton serviteur et bénis le peuple au Amen. Nom de Jésus.
Amen. Papa Dieu, donnez, venez prier pour les dîmes et les offrandes.